On a mis une sucrerie, on va dire comme ça. On a mis une sucrerie devant un enfant de 5 ans. 5 ans. À mon avis, ça marche avec les adultes aussi, mais là, dans l'histoire, c'est un enfant de 5 ans. Voilà. Et on lui a dit, je vais sortir de la pièce, si tu t'abstiens de le manger jusqu'à ce que je revienne, tu en as un second. Eh bien, ça marche pas. Enfin, peut-être chez quelques-uns, ça peut marcher. Eh bien, ceux qui savent se retenir jusqu'à ce que quelqu'un vienne, que la personne revienne, ceux-là auront une autre attitude par rapport à la gestion des difficultés, des envies, des désirs, des besoins qui seront devant eux tout au long de leur vie. La capacité de mettre le plaisir à distance, voilà la formule qui le dit, n'est-ce pas? C'est la formule qui permet d'échapper au piège, évidemment, hein. La capacité de mettre le plaisir à distance. Alors, je pense aussi à un livre de Jean-Claude Guillebeau, qui est un écrivain qui a écrit vraiment beaucoup de choses remarquables, je trouve, qui s'est converti à la foi chrétienne il y a quelques années, et qui a écrit un livre qui s'appelle « La tyrannie du plaisir ». C'est étonnant, hein, « La tyrannie du plaisir ». Donc voilà quelque chose qui est fait pour nous hausser, et qui finalement va nous enfoncer, en tout cas dans certains cas. On pourrait développer pendant toute la soirée, toute la nuit, ces effets qu'on ne soupçonne pas et qui vont malheureusement nous atteindre dans certains cas très profondément. Comment gérer les écrans, les enfants et nous? À mon avis, on ne peut pas séparer le cas des enfants et le cas des adultes. Même si l'enfant, il a un cerveau plus malléable, etc., il est en train de forger sa personnalité, c'est vrai, mais on dit, voilà, interdit au moins de 18 ans. Ça veut dire, après 18 ans, c'est bien, mon œil. C'est pas mieux après 18 ans qu'avant, n'est-ce pas? Voilà, mais on dit, voilà, tu as 18 ans, mais quand j'étais soldat, j'ai visité des milliers de jeunes garçons qui disaient, oui, maintenant j'ai 18 ans, donc je peux faire toutes les bêtises que je veux. Donc, avant 18 ans, on ne fait pas des bêtises, après 18 ans, on fait des bêtises. Et quelques-uns ont dit, on va passer le reste de sa vie à essayer de réparer les bêtises qu'on a faites pendant les 2 ou 3 ans qui ont suivi les 18 ans. Franchement, hein, quelle manière de gérer sa vie. Donc, les enfants et les écrans, moi il n'y a pas d'écran chez moi quand mes enfants étaient à la maison, mais c'était une autre époque, hein, figurez-vous. Et la pensée qui m'est venue tout de suite est celle-ci. Simplement, il faut donner l'exemple, comme pour tout le reste. Il faut donner l'exemple, vous voyez. Si les parents ne disent pas de gros mots, c'est pas sûr que les enfants en disent, en tout cas à la maison. Voilà. Voilà. Le pédiatre Aldo Nauri, voilà un penseur à très âgé maintenant, psychopédiatre, chez qui j'ai trouvé beaucoup de pensées très sensées dont je me suis inspiré pour d'autres sujets, notamment sur le rôle des pères. Et Aldo Nauri dit, si je voulais aider cet enfant, il fallait d'abord que j'aide ses parents. Et en relisant ces notes ce matin, je me suis dit, mais c'est la paille et la poutre plutôt. Hein. Voilà. Si les parents veulent aider leur enfant, il faut qu'ils s'aident d'abord eux-mêmes. Après, ils verront comment aider l'enfant. Et il est possible que certains parents aient de la peine à aider leurs enfants, disant « Ah, mais ces enfants, mais ils se sont pas mis eux-mêmes au bénéfice de l'aide qu'ils veulent apporter à quelqu'un d'autre. » Voilà. Donc, pas de smartphone à table, pas de séquences et de jeux vidéo à longueur de journée, pas de réseaux sociaux à tout moment, pas de séries cultes qui passent avant tout le reste, etc., etc. Démontrer qu'il y a une vie sans les écrans. Démontrer. Et donc c'est pas pour se priver pour le plaisir de se priver, c'est pas pour être plus malheureux, c'est pour montrer qu'on peut être aussi heureux, peut-être plus, non pas en se privant de tout le temps, mais en n'acceptant pas qu'on nous dicte une manière de vivre finalement qui nous éloigne de la réalité. Alors voilà, ceux qui ont étudié le sujet parlent de risques physiques. psychologiques, sociaux, spirituels. C'est pas mal quand même, hein? Voilà. Pas que les écrans, hein? C'est pas que le numérique. On peut parler d'autres choses comme cela aussi. De beaucoup de choses. Et même de choses en apparence bonnes. Par exemple, le travail est une bonne chose, mais on peut être addict au travail. C'est embêtant. C'est pas juste. Voilà. Alors, risque physique que j'ai repéré, enfin que j'ai appris, hein, finalement, la lumière bleue des écrans. Je savais pas que c'était bleu, mais ils le disent. La lumière bleue des écrans, le défilement des images altèrent le rythme et la qualité du sommeil. C'est pas rien, hein? La distance avec les écrans, donc courte distance, favorise la myopie, les maux de tête, les courbatures musculaires, la sécrétion de dopamine, c'est-à-dire à cause de l'émotion suscitée à tout moment, la non-activité physique favorise l'obésité. Je pense à une institutrice qui dit « J'ai vu le corps des enfants changer ». C'est étonnant, hein? Enfin, c'est étonnant. Oui et non. Une psychologue belge qui s'est beaucoup penchée sur le sujet a mentionné aussi certains jeux qui exposent les enfants à des situations de risque. Un jeu qui s'appelle No Limit. No Limit. Hein? Bon, No Limit, ça nous parle du diable, hein? Franchement, il n'y a pas de doute à ce sujet, hein? Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait une limite. Quand même, hein. C'est comme les 10 commandements, quoi. On pouvait faire tout ce qu'on voulait, sauf une chose. Et le diable dit non, il n'y a pas de limite. Et donc, il y a un jeu qui s'appelle No Limit. Il y a un jeu qui s'appelle PACAP. PACAP, ça veut dire on va voir si tu es capable ou pas. Et donc, mettre les enfants dans des situations où ils dépassent leurs propres limites. Et où la limite entre la vie et la mort, où le correct et l'incorrect, enfin, le pur et l'impur, cette limite disparaît, et quelquefois la vie est mise en danger, y compris physiquement. Voilà. Risque psychologique. Des enfants apparaissent comme fascinés par les écrans. C'est-à-dire, il pourrait y avoir le feu à côté, ils ne peuvent pas quitter l'écran. L'écran les captive à un point où c'est devenu une partie d'eux-mêmes, enfin, c'est vital. Mais même pas une minute, qu'est-ce que je dis? Même pas 10 secondes. Si on leur parle, ils n'entendent pas. C'est l'écran qui absorbe toute leur attention. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains vont rentrer dans des colères terribles, comme si on leur prenait un repas alors qu'ils n'ont pas mangé depuis 8 jours. Certaines scènes, certains personnages, ça moi je ne l'ai pas vu, mais cette psychologue en parlait, elle a parlé d'un personnage qui s'appelle Huggy Wuggy. Bon, voilà, c'est une espèce de monstre. Hein. C'est un monstre. Mais voilà, l'enfant il va contempler ce monstre. Mais la Bible dit on ressemble à ce qu'on contemple. Donc si vous contemplez un monstre, si vous croisez un monstre dans la rue, ça n'a pas beaucoup d'effet. Mais si vous le contemplez pendant un long moment, il y a quelque chose du monstre qui s'imprime dans votre cœur. Allez effacer ça après. Comment vous allez faire? Voilà. On sait dépolluer une plage. Pour dépolluer un cœur, c'est difficile. Voilà. J'ai appris un nouveau mot, la nomophobie. La nomophobie, c'est l'angoisse qui prend quelqu'un qui soudainement est sans son téléphone portable ou sans son smartphone, je ne sais pas quoi. Voilà. Tout d'un coup, il est comme au milieu d'un grand désert avec la nuit qui vient et il ne sait plus ce qu'il va faire. Bon. Les risques spirituels, le cœur est envahi tout simplement, il n'y a plus de place pour l'essentiel. 56 heures par semaine devant un écran. Pour certaines personnes, hein, 56 heures par semaine, oui c'est beaucoup effectivement, ça fait 122 jours par an, 27 ans au cours d'une vie. Voilà. Et les moyens de séduction qui sont mis en œuvre rendent difficile le discernement des faux messages. C'est comme une espèce de soupe indistincte avec du beau, du laid, du vrai, du faux, du réel, de l'irréel. Et chacun essaie de trouver sa place au milieu de tout cela. La communauté devient virtuelle, hein, avec les risques d'endoctrinement, la relativisation de tout. Une militante transgenre dit à tout moment, en parlant de ce sujet, c'est pas un sujet, il n'y a pas d'enjeu. Et donc, clac, elle induit un message. Hein. En fait, on en parle parce que vous m'invitez, mais en fait, c'est pas un sujet. Ah bon, c'est pas un sujet, ben, c'est pas la peine d'en parler alors. Vous voyez? Et donc, ça veut dire, hop, on passe à autre chose. Ça veut dire, si pour vous c'est un sujet, vous êtes hors jeu. Il y a aussi des risques sociaux. Les risques sociaux, c'est notamment le risque de dépendre du regard des autres. Ça, chez les enfants, c'est très important. Dépendre du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je ne comprends rien à ceci, si je ne fais pas cela, si je ne rentre pas dans ce créneau? Dépendre du regard des autres au dépend de la conscience. Voilà, c'est l'enfant qui peut dire oui, 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 mais là, non. Voilà. L'écran peut donner un sentiment de sécurité trompeur. Voilà, cette séquence a été vue tant de milliers, de centaines de milliers de fois. Donc si tu la vois, tu rentres dans une belle communauté de gens qui sont au top de ce qui doit se faire. Voilà. Avec encore une fois les limites qui sont repoussées, on fait des choses qu'on n'aurait pas faites normalement, comme quand on a bu un peu plus que ce qu'il faut, on est désinhibé. Un tiers des jeunes disent avoir fait du sexting. Sexting, encore un mot nouveau, hein. Ça veut dire avoir montré à une caméra une partie de son corps dénudé, un peu par jeu. Voilà, parce que quelqu'un l'a demandé ou c'est pas quoi. En oubliant que quand c'est dans la sphère numérique, hein, ça y est pour toujours. Ça y est pour toujours. Impossible de revenir en arrière. Voilà. Je termine ce survol, on pourrait dire, hein. Quelles mesures prendre? Quelles mesures prendre? On ne laisse pas un enfant, je parle des enfants, mais ça nous parle du comportement de l'adulte, hein. On ne laisse pas un enfant de 8 ans tout seul dans une grande ville avec de la circulation de partout. On le tient par la main et on l'accompagne. Donc on lui dit pas, il n'y a pas la ville, restons à la campagne au bord de la rivière, on va en ville avec lui, mais on l'accompagne, on le tient par la main et on lui apprend comment se diriger dans une grande ville. Donc voilà quelques recommandations. Vous aurez mes notes par écrit, hein, donc vous pouvez noter, mais vous aurez tout ça par écrit, je te l'enverrai sous peu. Voilà. Donc je vais un peu rapidement. S'intéresser à ce que regarde l'enfant. Regarder avec lui. Expliquer, avertir, répondre à ses questions. Donc je trouve que c'est une bonne... voilà. Donc on pourrait dire pas d'écran avant 3 ans, mettons, ou avant 5 ans, je ne sais pas, mais en tout cas pas tout seul. En tout cas pas tout seul, avec un adulte, pour en parler ensemble, faire une expérience commune. Voilà. Anticiper, c'est-à-dire être là au premier rang avec ce que l'enfant découvre, être capable d'en parler avec lui tout de suite, recueillir ses impressions, répondre à ses questions, lui donner un avis et placer un cadre et des limites. Par exemple, mettre un panier au pied de l'escalier en disant, voilà, on laisse les téléphones là avant de monter dans les chambres. Voilà, donc le téléphone est là, on va se coucher. Bon. Informer, ça paraît évident, sur les risques, les enjeux, les intentions malveillantes qui existent, les mensonges, les manipulations. Se protéger est une nécessité. Voilà. Dialoguer, l'enfant devrait pouvoir tout dire à ses parents. Ça se construit, hein. ça se mérite, ça demande de la transparence de la part de l'enfant, mais aussi de la part des parents, vous voyez. Si un parent dit à son enfant, là je me suis trompé, l'enfant peut dire à son papa, sa maman, je me suis trompé. Comprenez? Donc, voilà, peut-être on en reparlera demain. Dialoguer, voilà, avec nos enfants ou entre nous. Évaluer si je suis accro ou pas. Combien de temps je passe par jour sur les réseaux sociaux. En vacances, est-ce que je peux passer une demi-journée sans allumer mon téléphone, etc., etc. Est-ce que j'ai d'autres dépendances? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont plus susceptibles de rentrer dans des dépendances que d'autres. Une personne peut manger du nougat et après elle n'en mange plus pendant 2 ans. Une personne en mange et puis après il lui en faut tout de suite un autre. Vous voyez, donc on n'est pas tous pareils. Et donc quelqu'un qui est exposé à être dépendant à certaines choses peut l'être aussi pour d'autres choses, parce que c'est une même fragilité qui l'expose dans plusieurs directions. Voilà. Je conclue. Dans son gros livre, Le bluff technologique, Jacques Ellul. Donc Jacques Ellul, c'est quelqu'un qu'il faudrait connaître un tout petit peu parce qu'il a écrit vraiment des choses magnifiques. Ce livre est écrit en 1953 et il décrit une situation qu'on peut observer aujourd'hui. C'est incroyable, hein. Il y a un livre qui vient de paraître qui s'appelle Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prédit. Voilà, il était un peu comme un prophète. Voilà. Jacques Ellul dit dans ce livre Le bluff technologique, que j'ai abrégé en 6 pages pour ceux que ça intéresse, il écrit la technique aide jusqu'à un certain point, après elle complique. Voilà. C'est intéressant quand même, hein. La technique aide jusqu'à un certain point, après elle complique. Bon, je me suis dit ça, c'est enregistré, mais tant pis, hein. Je me suis dit ça au sujet des tracteurs des agriculteurs. Je prends des risques là, hein. Mais oui, à côté de chez moi, vous savez, il n'y a pas des champs de 50 hectares, hein. Il y a des champs, des parcelles qui sont à peine plus grandes que cette pièce-là. Et je vois un agriculteur qui a un tracteur avec des roues hautes comme ça, pneus larges comme ça. Je vais voir sur Internet le prix, 200 000 euros. Bon, 200 000 euros, il faut en vendre des salades, hein, pour rembourser. Voilà. Et donc je me suis dit, voilà, Jacques Ellul dit, la technique aide jusqu'à un certain point, après elle complique. Ça me paraît mérité d'être retenu et médité cela. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle des comités de réflexion éthique se sont mis en place un peu de partout, hein, dans les hôpitaux, les cliniques, mais dans les entreprises et tout. C'est-à-dire, techniquement, on peut le faire. Est-ce que pour autant, il faut le faire? C'est ça l'éthique. Et la réponse n'est pas simple. Par exemple, on peut faire une ablation de l'estomac, de l'intestin et du rein à une personne de 98 ans. On peut le faire. Mais est-ce qu'il faut le faire? C'est pas sûr. Mais donc, voilà que la technique nous expose à des alternatives, à des questionnements, à des choix qui sont difficiles et qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, j'ai réfléchi à la question, à l'expression connexion illimitée. Vous avez entendu parler de ça déjà. Connexion illimitée. Donc ça veut dire que vous pouvez être connecté jour et nuit et même plus. Mais alors vous arrêtez quand? Vous dormez quand? Vous mangez quand? C'est gratuit. C'est comme les restaurants où on mange ce qu'on veut pour le même prix. Mais il y en a qui sortent et ils tiennent plus debout. Voilà. C'est le problème de la richesse. Qu'est-ce qui m'a épargné de tomber dans des excès? C'est que je n'étais pas très riche dans ma vie, vous voyez. Mais celui qui est très riche, il peut acheter 100 kilos de chocolat. 100 kilos de chocolat, c'est pas un problème pour lui. Il achète, qu'est-ce qu'il fait après ça? Voyez? Et donc Jésus dit, il sera difficile pour ceux qui sont riches. Et donc, en un sens, nous sommes riches aujourd'hui des possibilités que la technologie nous offre. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons avec cela? Et Jacques Ellul, dans ce livre, dit il y a deux phénomènes qui caractérisent notre époque. Deux phénomènes. L'accroissement des moyens technologiques et la perte des références chrétiennes. Et il dit que c'est les deux ensemble qui créent beaucoup de difficultés auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. En d'autres termes, les progrès technologiques avec les convictions chrétiennes seraient gérés plus facilement. Ou bien la situation technologique d'avant sans la foi chrétienne, on arriverait à trouver son chemin. Mais l'accroissement de la technologie avec au même moment la perte de la crainte de Dieu, eh bien, crée des situations qui deviennent vertigineuses. Voilà, il écrit cela en 1953. Voilà. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit dans ta prière, je crois, il nous faut de la sagesse pour gérer ce que Dieu nous demande de gérer, tout simplement, et dire non quand il faut. Je pense au wokisme. Je pense au wokisme qui se diffuse notamment par les moyens numériques, qui est une sorte de revendication du droit à rêver la réalité et qui donne comme message que le monde illusoire peut être considéré comme plus vrai que le monde réel. Je le redis, le wokisme donne comme message le monde illusoire est plus vrai que le monde réel. Avec, par exemple, les changements de genre, etc. Voilà. Ce que j'imagine, ce que je rêve, j'ai le droit de le voir advenir comme quelque chose de réel. Voilà. Encore une fois, il n'est pas difficile d'y voir un mensonge. Celui qui ne saura pas dire non à cela, risquera fort d'être emporté. Voilà, peut-être vous avez retenu parmi ces points une ou l'autre pensée et j'aurai pas forcément réponse à toutes les questions, mais je pense qu'on peut passer du temps utilement à échanger maintenant. Oui, il faudrait le micro, je crois.
Comment peut-on voir la limite entre le moi et la personnalité pour quelqu'un? Pour des adultes, c'est un peu hors sujet, mais...
Entre le moi et la personnalité?
De quelqu'un, oui, de notre propre possibilité et notre moi.
Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Essayez de le dire avec d'autres mots, s'il vous plaît.
Je veux dire, parce qu'on a des choses... On est tous une personnalité, mais l'ego, c'est autre chose. Mais on a une personnalité, mais l'ego, on ne doit pas l'écouter. D'après Dieu, le moi, il sable, quoi. Mais on a une personnalité, quand même. On a nos goûts, peut-on voir la différence? Comment le Seigneur en parle dans sa parole, si le Seigneur et ceux qui en... Il y aurait des versets qui peuvent nous...
J'essaie de donner quelques éléments. Je ne suis pas sûr de comprendre tout à fait la différence entre le moi et la personnalité.
L'ego, le moi, c'est l'orgueil humain, quoi, qui par sa volonté n'est pas dans la volonté du Seigneur.
Alors, il me semble que la parabole de la poutre et de la paille est une bonne piste pour rejoindre ce que vous dites. Parce que celui qui veut aider quelqu'un d'autre sans voir son propre problème, ben, on sait qu'il ne va pas beaucoup aider. Il va plutôt peut-être compliquer les choses ou faire semblant. Et ça veut dire que lui, il se met pas dans la même lumière. Il se place au-dessus. Il se laisse pas remettre en question par le Seigneur. Il se protège. Pourquoi il fait cela? S'il se protège, il est dans une forme de mensonge. Et voilà, moi, j'ai pas de problème. Ah bon, tu n'as pas de problème? Tu veux qu'on en parle? Voyez. Et donc, il y a une sorte de préservation du moi, qui peut durer d'ailleurs toute la vie. Moi, j'ai vu des personnes qui laissent entrer leur moi dans la lumière de Dieu quelques heures avant de mourir, par exemple. Ça veut dire... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et ça, c'est le sujet de demain, mais c'est le sujet de tous les jours. Ne pas reporter à plus tard ce que nous devrions vivre maintenant, c'est déjà trop tard, quelque part. C'est dommage. Et donc, oui, il y a un amour de soi qui est un amour déplacé, qui est un amour idolâtre, qui est un amour narcissique, un amour égoïste, comme vous dites, qui ne permet pas de recevoir l'amour de Dieu. Donc, cette question me fait penser à ça aussi. Pourquoi l'amour de Dieu dont nous avons tellement besoin est si difficile à recevoir? Là aussi, on peut mettre des années et des années avant de recevoir l'amour de Dieu dans son cœur. Parce que cet amour, il va nous briser quelque part. L'amour de Dieu brise notre moi. Avant de l'enrichir, il ne le brise pas pour le détruire, mais il le brise pour l'enrichir. Quand on prend le pain et le vin du Seigneur, c'est en tant que personne brisée que nous prenons le pain et le vin, n'est-ce pas? L'amour de Dieu nous a brisés. Pas simplement la loi de Dieu, l'amour de Dieu nous a brisés quand nous avons dit oui. Et ensuite, cet amour nous a relevés, nous a pris par la main, nous a enrichis. Donc, ça veut dire que si on se soumet au Seigneur, on va renoncer à certaines choses, certainement, mais pour pouvoir en recevoir davantage. C'est pas du misérabilisme. Et donc, pour rejoindre le sujet d'aujourd'hui, si je m'abstiens de certaines choses en apparence prometteuses, c'est pas pour être plus pauvre, c'est pour être plus riche. Si je dis non dans certains cas, c'est pas pour être plus malheureux, c'est pour préserver ma joie. Et ça, si un enfant le comprend, si un enfant comprend qu'en disant non à certaines choses, il va préserver sa joie, peut-être qu'il va dire non plus facilement, quand il faut, pas tout le temps, mais quand il faut. S'il pense que sa joie est dépendante des oui qu'il va dire, il va dire oui tout le temps, même quand il ne faut pas. Bon. Voilà ce que votre question m'inspire.
Si j'ai bien compris, enfin moi c'était le sujet de l'addiction au travail, entre autres, qui m'a interpellée, parce que je me suis demandé où on fixe le curseur. Donc j'ai compris que vous avez, enfin, j'ai bien aimé l'exemple de oui, oui, mais ça non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on dit oui à tout, c'est qu'on est dans l'addiction.
Oui.
Et du coup, où fixe-t-on le curseur pour ça comme pour d'autres choses? Donc j'ai compris que vous parliez d'un curseur individuel, mais est-ce que vous pouvez peut-être, au moins sur le travail, clarifier un petit peu mes lumières? Merci beaucoup.
Oui, c'est une bonne question. C'est personnel, effectivement, comme vous avez dit. Alors moi, j'imagine un tableau de bord avec une petite lumière verte et une petite lumière rouge. Donc ça répond pas trop à la question, mais quand même, je pense que ça peut aider d'imaginer un tableau de bord. Hein. Donc on a tous des voitures, hein, et quand la lumière rouge clignote, hein, il faut s'arrêter bientôt. Et quand elle ne clignote plus, c'est vraiment déjà très tard. Et je pense que dans nos vies, nous avons devant nos yeux un tableau de bord qui nous indique la vitesse, qui nous indique beaucoup de choses. Voilà. Est-ce qu'on sait le lire? Et si ça commence à clignoter jaune ou rouge, hein, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc vous voyez, je réponds sans répondre, mais quand même je pense donner une piste réelle là. Parce que il y en a un qui le sait, c'est Dieu, et Dieu il nous parle. On l'écoute ou on l'écoute pas. Voilà, donc j'ai envie de dire comme ça. Après, il y a sûrement d'autres indices, hein. Il y a d'autres indices, hein, mais je réfléchis au fur et à mesure. Je pense qu'il y a des joies de différentes natures qui peuvent habiter notre cœur. Il y a une joie liée au péché, sinon on ne pécherait pas. Mais ce n'est pas la même que la joie liée à la pureté. Est-ce qu'on sait faire la différence entre les deux? Mais il le faudrait, hein. Il me semble que c'est la définition biblique de l'intelligence. Vraiment, hein. C'est la définition biblique de l'intelligence que de savoir faire la différence entre une joie pure et une joie impure. Ou bien, si Dieu est attristé à mon sujet, ou si Dieu est apaisé à mon sujet, est-ce que je peux me rendre compte ou pas? Je dirais, ah oui, mais comment on va se rendre compte? Ben, quand même, son esprit est dans notre cœur, hein. Donc, il faudrait savoir l'écouter, quoi. Si l'esprit de Dieu est attristé, est-ce que je m'en rends compte ou est-ce que je continue comme avant? Voilà. Nous ne pensons pas suffisamment à la joie et à la tristesse de Dieu. Nous pensons à notre joie, à notre tristesse, c'est légitime, bien qu'on puisse se tromper plus d'une fois, mais si nous songions en tant qu'enfants de Dieu à la joie dans le ciel ou à la tristesse dans le ciel, je pense que notre discernement de ce qui est juste et de ce qui n'est pas juste serait plus grand, en se décentrant de soi-même. Je pense qu'il y a pas mal de versets bibliques qui le disent, hein. Voilà, que ferait Jésus à ma place, hein? Il y a toute une série. Ce serait intéressant de relever les indices qui nous montrent si on est sur une bonne voie. Voilà, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et donc, ça veut dire aussi laisser du silence pour que Dieu parle. Voilà, c'est Dietrich Bonhoeffer qui dit, hein, quand nous prions, c'est toujours nous qui parlons. Et nous oublions que écouter est plus important que parler. Voilà. Il dit d'ailleurs, ça touche spécialement les prédicateurs, ceux-là, qui croient qu'il faut toujours qu'ils parlent. Voilà. Et donc, Dietrich Bonhoeffer dit, celui qui écoute fait mieux que celui qui parle. Parce qu'il saura d'abord conduire sa vie comme il faut, et ensuite dire la parole qu'il faut au moment où il faut. C'est magnifique, hein. Ça fait envie, quoi. Ça fait vraiment envie, je trouve. Voilà quelques pistes, hein.
Alors moi j'ai une question très concrète, je pense qu'il ne vaut pas que pour la question des écrans, mais là c'est celle-ci qui me vient. Vous avez dit au début que c'est important de bien se connaître soi-même et donc de quelque part de bien connaître nos enfants et leurs limites aussi. Sur les règles sur les écrans, ça m'interpelle de se dire que finalement il y a des enfants qui seront plus sensibles aux écrans que d'autres, c'est en sûr. Tout cas qui en créeront plus facilement une addiction. Oui. Comment gérer la différence de traitement, finalement, entre les enfants? C'est pour ça que je dis que ça peut être plus global, parce qu'en fait, est-ce qu'il faut poser des règles générales pour tous les enfants qui s'appliquent de la même manière? Ou est-ce que... Quelle injustice, en fait, vont vivre les enfants de cette différence-là, quoi?
D'accord. C'est une bonne question qui rejoint vraiment le sujet de demain, hein. Comment transmettre la foi à nos enfants, la question de la parentalité. Donc c'est une bonne question que vous posez. Je dirais, je pense que tous les parents seraient d'accord avec ça, hein. Il faut à la fois les mêmes règles pour tous, que les enfants sont très sensibles à la notion de justice ou d'injustice, les mêmes règles pour tous, et en même temps l'accompagnement personnalisé pour chacun. Et je me suis dit ça encore, je sais pas quand, cette nuit ou ce matin, si nous avons plusieurs enfants, passons du temps seul avec chacun. Moi, je ne l'ai pas assez fait, probablement. Et je vois une de mes filles qui me dit, je me souviens, en Allemagne, il y a 35 ans, tu étais venue avec moi acheter quelque chose pour moi dans un magasin. C'était que elle, il y a 4 enfants. Mais le fait que je l'ai pris, elle, pour acheter quelque chose avec elle et pour elle, c'était rien du tout, hein. Mais elle s'en souvient encore aujourd'hui comme quelque chose d'exceptionnel. Et donc, en tout cas, oui, je pense que ça rejoint un petit peu votre question. S'il y a 4 enfants, d'abord, ils sont tous les 4 différents, les mêmes règles devraient être appliquées aux 4, mais un suivi personnalisé devrait être offert à chacun, parce que chacun a un cheminement, une ligne de maturité, des fragilités, des tentations, une forme de pensée qui est propre à lui. Et donc, prendre un enfant seul à seul pour aller marcher sur le chemin avec lui pendant 3/4 d'heure, hein, je pense que c'est irremplaçable. Et là, il y a des choses qui vont se dire. Hein, parce que quand on marche ensemble, on regarde dans la même direction. Et, parce que l'enfant a besoin, en fait. L'enfant a besoin de parler. Et souvent, l'adulte est qu'en partie disponible. Hein, il a beaucoup d'autres soucis. Il est à un autre niveau, quoi. Mais quand on marche, on est au même niveau. Hein, c'est vraiment ce que Jésus a fait avec nous, quand même. Hein. Et on voit que Jésus... Il a été quelquefois avec beaucoup, quelquefois avec des petits nombres, quelquefois avec 3 personnes, et il se passait pas la même chose chaque fois. Donc, voilà, prendre conscience que les enfants sont différents les uns des autres et parler avec lui de manière spécifique, hein, poser des questions, lui demander comment il comprend les choses, qu'est-ce qui est difficile pour lui, qu'est-ce qui lui fait de la peine, ça me semble... le rejoindre, toucher son cœur et se donner les moyens de lui apporter la parole juste. Pas forcément dans l'immédiat. Hein. Si un papa dit ou une maman, mais là je ne sais pas trop, mais je vais réfléchir à ce que tu m'as dit, ça me paraît excellent par exemple. Si un papa ou une maman dit, là je ne sais pas trop, ça veut dire il n'y a que Dieu qui sait. Même de dire je ne sais pas trop, c'est important. Parce qu'une fois, un jour le papa et la maman ne seront plus là. Quoi. Puis un jour le papa et la maman se trompent. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui se trompe pas au-dessus, vous voyez. Donc, le papa et la maman, je le redirai demain, ça, mais il est à la fois l'égal et il est celui qui aussi est le berger. Il est à la fois celui qui est au-dessus et celui qui est avec. Voilà. Donc, au-dessus, c'est la même règle pour tous. Avec, il a un comportement qui est adapté à chacun. Bon. Il y a un micro qui est attendu par là.
Marie-Colette. Bonjour. Et moi, j'ai pensé à ce que me racontait mon mari qui est prof et qui a des élèves de terminale et de BTS, donc pas des petits. Il disait, j'en ai 13, alors je crois que c'est 13 en BTS. Il m'a dit, ben voilà, j'en ai 5 qui sont endormis. Sur leur bureau, parce qu'ils ont passé la nuit à faire autre chose que de dormir. Et ils sont sur leurs écrans. Et là, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il m'explique. Alors, je me rappelle pas de quelle règle il parlait, parce que je sais pas de quoi. Il dit c'est quelque chose qu'il apprend au terminal et qu'il doit répéter au BTS. Et il dit c'est une règle que normalement on connaît. On doit savoir et normalement ça doit rentrer. Ça ne pénètre plus. Il n'y a plus rien qui pénètre. Ils sont abrutis. Je dirais ça comme ça. Et moi, ça m'a interrogée sur moi. Et je me suis dit à quel point j'arrive encore à me concentrer. Et encore, moi, je suis vieille et je veux dire, je suis pas née avec. Et voilà, j'ai quand même un peu de recul. Mon téléphone, il n'est pas greffé sur moi. Ou les écrans, je passe pas ma vie trop devant. Donc, je fais d'autres choses. Je marche, enfin, je fais des choses. Voilà. Mais je me disais, j'ai l'impression que même quand je lis ma Bible, et je lis du papier, hein, je lis pas des écrans, et ben j'ai du mal à m'y concentrer. Je pense qu'on se fait atteindre. Enfin, moi, c'est ce que je constate. Et je me dis, mais il faut que je lutte. Et je sais pas comment on arrive à sortir de ce combat, quoi. J'ai peur pour les jeunes, parce que moi, ce que me raconte mon mari, ben moi, je me dis, mais ils sont fichus. Ils sont déjà fichus. C'est affreux. Non mais bon, il me dit, mais et c'est pas la première année hein, que je l'entends être découragé de plus arriver à enseigner, quoi. C'est fou.
Voilà, d'accord, tout. Merci pour ce témoignage. Certains ont dit que la structure du cerveau se façonne autrement par l'usage des écrans. Donc, pas simplement manque de sommeil, la structure du cerveau. Ça veut dire le cerveau se structure, se conditionne pour des séquences flash, courtes, brèves. Et donc, au bout de 3 phrases, il faut changer de sujet ou il faut qu'il y ait une image qui intervienne. Je pense à un diacre d'une église évangélique en Roumanie qui était venu nous visiter quand j'étais pasteur à Vauvert et qui disait, quand j'enseignais les enfants de l'église avant la chute de Ceausescu, eh bien, je pouvais leur parler 40 minutes sans qu'ils lâchent prise. Après la chute de Ceausescu, la télévision est rentrée dans les maisons. Au bout de 10 minutes, ils n'écoutaient plus. Alors, C'est à cause de ces questions-là que j'ai commencé mon propos tout à l'heure en disant, comme chrétiens, nous sommes pareils ou différents des autres. Et donc, si les chrétiens vivent comme les autres, ils seront pareils que les autres. Et on constate que beaucoup de problèmes de la société se retrouvent dans l'Église, presque inchangés. Presque inchangés. Donc ça questionne. Et en disant ça, je n'imagine pas qu'une communauté chrétienne devrait vivre en autarcie, sur une montagne. Non, évidemment que non, hein, la Bible ne le demande pas. Mais qu'est-ce que veut dire se préserver du mal? Voilà, ça, cette question, on ne peut pas y échapper quand même. Et là, il vaut mieux pas être trop craintif, parce qu'être trop craintif n'est pas sage, ça nous expose autrement, mais il vaut mieux ne pas être trop naïf non plus. Pas évident, hein? Et pas attendre trop tard non plus. Ouais. Merci.
Moi, c'est plus, je sais pas, c'est une question, plus une, pour rebondir sur le point de, ils sont abrutis maintenant, nos jeunes, quand ils aient... Non, en fait, la source de distraction et la source de, en tant que chrétien et, enfant chrétien, la source de distraction est devenue le numérique.
Oui.
Donc ça nous attire, on est moins concentré, etc. Oui. Et le discours, j'ai l'impression qu'on a souvent, c'est que c'était mieux avant. Et oui. Quand on remonte avant, ils disent, ben c'était encore mieux avant. Avant le numérique, il y avait la télé. Mais ouais, depuis Platon, c'était mieux avant. Et avant la télé, c'était mieux. Et en fait, si on remonte, en fait, c'est jamais différent. Il y aura toujours, pour moi, il y a toujours, il y a dans oui. l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est entaché de tout le monde et de toute l'idolâtrie ambiante.
Oui.
Et le diable va tout faire pour tirer le peuple de Dieu vers lui et les, oui. et les assouvir. Et bah, pour moi, c'est un autre mal, une autre source, mais c'est la même depuis des milliers d'années, quoi.
Oui, je suis d'accord. C'est vrai, le péché est le péché, le péché est le péché, le cœur est le cœur, la chair est la chair, la lumière est la lumière, et donc, en un sens, rien de nouveau sous le soleil. Je suis d'accord avec toi. En même temps, il y a des différences. Je dirais, il y a les deux, hein. Et la remarque de Jacques Ellul, en disant, voilà, pendant une génération qui vient de s'écouler, disons pendant les 50 ans qui viennent de s'écouler, l'accroissement des progrès technologiques est quand même considérable, inimaginable. Ça, c'est un fait. Voilà. Et la perte des références chrétiennes, en tout cas dans nos contrées d'Europe occidentale, est aussi considérable. Voilà. Et donc, là, on a deux phénomènes qui sont quand même liés à un temps particulier qui se trouve être le nôtre. Donc ça, je pense que c'est des données qu'il faut prendre en compte sérieusement pour pas être naïf, voilà, pour pas bien faire l'exégèse de notre temps. Hein. Vous savez en quel temps nous sommes, dit l'apôtre Paul, mais au temps des Romains, c'était pas triste. Hein. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec ta première remarque. En un sens, rien n'est changé. Voilà. Mais ne le disons pas avec fatalisme. Voilà. Ne le disons pas avec fatalisme, avec ce doute que j'ai évoqué aussi de parents, par exemple, qui partent perdus, qui partent battus. Voilà. Nos enfants vont se révolter, nos enfants vont regarder de la pornographie, nos enfants vont aller dans le monde avant de revenir dans l'église, peut-être quand ils auront 50 ans. Voilà. Ils partent battus. Et on pourrait le comprendre humainement, on pourrait comprendre qu'on soit dépassé. Mais je pense qu'il ne faut pas partir battu. Pas être trop sûr de soi, parce que sinon, c'est comme si on roule à 180 sous la pluie, hein, c'est pas bon. Mais il faut avoir quand même une ferme assurance et une grande espérance. Parce que ça se communique aussi à nos enfants. Ni trop sûr de nous, ni dans le doute. Oui.
Moi, j'ai 4 enfants et en fait, Marie, elle a ouvert le sujet que je voulais ouvrir aussi parce que les enfants ne sont pas pareils. Mais vous avez parlé du risque social et c'est vrai, j'ai mon aîné, il a 9 ans et à chaque fois, il vient dire « Papa, mon collègue Alexandre, tel collègue Ethan, il a la Nintendo Switch. Ma collègue, elle a un téléphone. Ah, papa, Rediard Roman, il a déjà un Insta, il a 9 ans. Et ça devient difficile parce que tout ce que vous avez dit, j'ai déjà appliqué et j'ai regardé avec lui ce qu'il voit. Je l'ai conseillé. Parfois, je lui ai dit qu'il y a la plupart des mensonges. Quand j'ai pu et quand j'ai eu la capacité physique, j'ai essayé de lui trouver des activités, mais dernièrement, c'était carrément impossible. Et là, je voudrais savoir si vous avez encore des autres sujets ou si vous pouvez développer un peu plus les risques sociaux, parce que vraiment, je le vis avec mon fils. Merci.
Merci pour la question. J'espère que tout le monde a compris ce que dit le frère. Alors, ta question me fait penser à un livre qui m'a marqué il y a un an ou deux là, dont j'ai aussi rédigé un abrégé, que je fais envoyer à ceux qui veulent. Le livre s'appelle « Résister aux mensonges ». Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire de marcher dans la lumière ? Et dans un des chapitres du livre, il dit « N'ayons pas peur d'être différents ». Alors là aussi, tous les enfants ne sont pas tentés de la même manière. Hein. Par exemple, moi j'ai deux filles, entre autres. J'ai une fille qui se moque de ce qu'on pense d'elle hein, et j'ai une fille qui est très attentive à ce qu'on pense d'elle. Ce n'est pas la même chose, vous voyez. Elles n'ont pas les mêmes combats toutes les deux. Et donc c'est là qu'il faut un accompagnement adapté à chacun. Mais il me semble qu'on peut apprendre très tôt à un enfant qu'il n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Ça me paraît indispensable. Et pas seulement à 14 ans, mais déjà à 3 ans ou à 5 ans. Et encore une fois, pas avec l'idée qu'il va être moins heureux, mais qu'il va être plus heureux. C'est pas morbide, c'est pas triste, c'est pas sombre, c'est pour de la lumière, c'est pour de la vérité, c'est pour de la joie. Mais nous pouvons être différents. Et là, il faudrait arriver à combiner à la fois une grande autorité et beaucoup de patience et beaucoup de douceur pour convaincre. Une grande autorité, pourquoi ? Parce que si nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes de cela, on va convaincre personne. Voilà. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, ça demande de la détermination. Hein. Je pense à une maman qui a des enfants, voilà. L'enfant revient de l'école en disant, par exemple, des gros mots. Elle dit « pas dans cette maison ». Mais elle le dit d'une manière telle que l'enfant ne va plus jamais dire de gros mots dans cette maison. C'était la première et la dernière fois. Alors, on dirait, ça c'est fort, hein. Mais c'est pas impossible. Il faut croire que c'est possible. Si on a un doute, par ce doute, la défaite vient. Si on est sûr que c'est possible, si on est convaincu, on peut convaincre l'enfant, plus jamais il dit de gros mots en présence de ses parents. Et cette maman, quand l'enfant s'est mal conduit, elle lui dit, va dans ta chambre, réfléchis, je viens te voir dans 10 minutes. C'est pas compliqué, hein? Voilà, ça faisait 10 minutes, tout seul, mais après maman va venir me voir, qu'est-ce qu'elle va me dire, qu'est-ce que je vais lui dire. Ça, c'est parler à la conscience. Et un enfant qui a une conscience sensible et éveillée, il peut comprendre que par rapport aux autres, il faut quelquefois dire oui, il faut quelquefois dire non. Et je pense que le plus tôt on commence, mieux ça vaut. Mais c'est une règle qu'il faut s'appliquer à soi-même aussi. Pas évident. Par exemple, dans le milieu professionnel, les pasteurs ne le savent pas forcément, mais un chrétien dans le milieu professionnel, il subit des pressions inimaginables. Manière de parler, manière de se comporter, manière d'être en relation. Il faut qu'il fasse groupe avec les autres, sinon on va lui dire « mais qu'est-ce que tu fais là ?» Il faut qu'il fasse groupe tout en restant en paix avec sa conscience. C'est pas facile. C'est nécessaire. L'enjeu est considérable. Et donc, si nous appliquons à nous cette règle, d'abord de plaire à Dieu, d'abord de plaire à Dieu, et ensuite d'avoir de bonnes relations autant que possible avec tout le monde. On pourrait le dire comme ça, hein, c'est pas des mots compliqués. Mais est-ce que l'enfant peut enregistrer cela et le mettre quelque part bien à l'abri dans son cœur? Je crois que c'est possible. Après, en tant que parent, il faut accepter qu'il y a un décalage entre le moment où on le dit et le moment où ça fait tilt dans le cœur de l'enfant, quoi. Hein? Voilà, ce décalage, il est nécessaire. Hein? Et parce qu'en fait, il n'y a que Dieu qui convainc, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui convainc. Mais nous pouvons quand même être de bons instruments entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais peut-être j'ai donné quelques pistes. Merci. Ouais. Oui? Oui?
Bon, moi, ce serait plutôt un encouragement par la lecture de ce verset là, que j'aimerais, enfin, qui m'a souvent encouragé et soulagé, donc je pense qu'il pourra soulager des parents. C'est celui qu'on trouve dans Proverbe 22, verset 6. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » C'est bon, ce verset, je le connais depuis que je ne sais même pas marcher.
Oui.
Mes parents l'avaient souvent lu dans nos milieux évangéliques. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai voulu faire comme la plupart des jeunes de mon âge. J'ai dévié peut-être un petit peu, mais voilà, ce verset revenait en permanence. J'ai eu deux enfants aussi, qui sont grands maintenant. J'ai eu énormément, enfin, pas mal de soucis avec eux, ce que je comprenais parce que j'en avais causé à mes parents, donc c'était quand même assez facile à comprendre le chemin qui me faisait vivre par la suite. Et ces enfants, maintenant, enfin, j'en ai un qui est très ouvert au Seigneur, l'autre c'est peut-être un petit peu plus discret, mais voilà, ils se sont pas forcément éloignés de ce chemin-là. Si ça peut encourager des jeunes parents, ben voilà.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est un sujet délicat, hein. C'est un sujet délicat parce que quand même la Bible ne promet pas que nos enfants vont entrer dans la foi avec enthousiasme tout de suite. Et on peut pas contraindre nos enfants de marcher dans la foi, mais je pense que ce verset signifie que ce qu'on a communiqué à l'enfant quand il était jeune, toute sa vie va rester inscrit. Il n'est pas obligé de l'écouter, il n'est pas obligé de dire oui, mais c'est inscrit quelque part dans son cœur. Et donc il y a une promesse sur cet enfant. Et là, pour l'enfant qui n'a pas signé, je dirais, ce qu'on lui a appris, eh bien, il y a ce décalage dont j'ai parlé, hein, et la patience des parents, et la patience de Dieu. Et heureusement que Dieu est patient, mais ce verset confirme que c'est jamais trop tôt pour parler sérieusement à nos enfants. Voilà, je le redirai demain, mais je le dis déjà aujourd'hui, on donne à nos enfants des petits jouets pour s'amuser, nous leur devons des choses profondes et vraies, des choses de lumière, hein, des choses qui les placent sous le regard de Dieu, adaptées à leur âge, bien sûr. Ouais. Merci.
Pour aborder le thème des réseaux sociaux, cette semaine, devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg a dû demander pardon à des dizaines de parents dont les enfants s'étaient suicidés.
Ah bon?
Oui, il était auditionné devant le Congrès américain. Donc, c'était pas tout à fait une plaisanterie, quoi. Et les parents brandissaient les portraits de leurs enfants qui, suite à des harcèlements sur Facebook, donc c'est le patron de Meta, Mark Zuckerberg.
C'est ça.
Et de Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et oui. Du coup, il a dû demander pardon devant toutes les caméras du monde entier pour justement, et ils sont obligés de reconnaître, les grands patrons de la Silicon Valley laissent pas leurs enfants aller sur les réseaux sociaux. Eux qui gagnent des milliards avec, il faut bien qu'on le sache. Hein. Voilà, ils les privent d'écran, eux. parce qu'ils savent.
Merci, merci. Il y a une sœur qui voulait dire quelque chose devant. Oui, je n'étais pas au courant de ce mea culpa.
Ouais. Je voulais revenir sur la question du nom.
Ah oui.
Et vous aviez suggéré qu'on puisse apporter aussi un témoignage ou un complément. Moi, je trouve que, comme le dit le dicton, il faut joindre à la parole le geste. Et il m'est arrivé d'expliquer à mon garçon de plutôt 7 ans à l'époque, que quand il était avec des petits copains à l'école et qu'il voyait qu'une bêtise était en train de se faire ou qu'on essayait de lui en faire une, donc il fallait dire non. Mais si on reste avec les copains qui font la bêtise en disant non, peut-être qu'à la troisième fois, on va dire oui, comme vous le disiez. Et je lui ai dit, tu dis non, et physiquement, tu t'en vas, tu prends ton corps, tu te déplaces dans la cour et tu vas de l'autre côté de la cour avec d'autres enfants. Tu ne restes pas sur l'endroit où tu vas être tenté de désobéir à la maîtresse et aux règles de l'école. Tu te déplaces, tu t'en vas, tu déplaces ton corps, tu te mets ailleurs. J'ai essayé de l'expliquer de différentes manières, avec différentes phrases, qu'il fallait qu'il s'en aille, qu'il fuit, qu'il s'enlève de là où la bêtise pouvait se faire. Et je pense que ça, c'est valable pour à peu près toutes les addictions, à tous les âges, et s'en aller physiquement de là où est le péché, où est l'addiction, le problème, la tentation. Et je pense que c'est important, c'est une aide importante à l'enfant, et de lui dire qu'il est en capacité de faire ça, de s'en aller physiquement. Et je pense que c'est une aide. Et quelques mois plus tard, il a eu l'occasion de me dire, maman, je suis partie en courant, je suis allée à l'autre côté de la cour et je suis allée jouer avec d'autres copains. Et on s'est bien amusé. Et donc, il a eu la joie de pas être exclu, de pas avoir le mauvais regard des autres, en étant resté avec eux, peut-être le mépris dont vous disiez que l'enfant pouvait être accablé, d'être différent, bah il est allé ailleurs, du coup, il était avec d'autres personnes qui étaient pas différentes. Et il s'est pas senti différent au milieu de d'autres, quoi.
C'est ça. Mmh. Donc, c'est une belle expérience, effectivement. C'est pas forcément facile, hein. Est-ce qu'il peut y avoir des paroles moqueuses ou...
Ben, quand on s'en va, ça évite de les subir, justement, ces paroles moqueuses. Il s'en est extrait. Et ça, je lui avais expliqué que ça lui éviterait d'entendre, d'avoir des mauvais regards ou des mauvaises paroles.
Je comprends.
Il s'en va. Donc il s'en va des personnes qui peuvent être méchantes avec lui.
Je comprends. Quand le psaume premier dit que le juste ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, ça veut dire qu'il ne s'associe pas à eux. Alors, en écoutant ce que vous dites, je me dis, il faudrait pas qu'un enfant développe un regard hautain ou méprisant ou orgueilleux par rapport aux autres, qui reste humble et modeste et amical, tout en étant capable de dire là non et de le concrétiser notamment en s'éloignant quand il le faut.
Et ça me faisait penser à Adam et Ève dans le jardin, en fait. Ils sont restés scotchés à l'arbre en discutant avec le serpent, et s'ils avaient pris peut-être leurs jambes à leur cou à la première parole du serpent, ils n'auraient pas regardé le fruit, ils n'auraient pas vu qu'il était bien beau, bien attrayant, et ils devaient bien rôder autour de cet arbre pour finir par en cueillir le fruit, parce que c'était interdit, et l'interdit attire, hein, un peu comme un aimant. Et alors on tourne autour, parfois on est borderline sur les limites de l'interdit, et puis tout à coup on franchit le pas, alors que si on s'en tient éloigné...
C'est ça. Donc là, il y a des clignotants rouges sur le tableau de bord, et on les voit pas.
Voilà.
On les voit et on fait comme si on
comme les si on les voyait pas.
Voilà. Donc cette histoire de clignotants, moi ça va m'aider, je sens. Donc j'espère que ça peut vous aider aussi. Mais c'est pas forcément facile, parce que ce que tu dis pour les enfants, c'est vrai pour les adultes aussi. Et dans certains cas, on peut pas physiquement partir. Quelqu'un qui est dans une équipe de travail,
ah oui, peut non, pas on physiquement peut pas, on rester peut pas chez toujours. Lui.
Et donc voilà, là c'est difficile, mais si je n'ai pas le droit de partir, c'est autre chose que si je reste volontairement, alors que je pourrais partir. En tout cas, la détermination est très importante. L'indécision fait le jeu de l'ennemi. Hein? Quand Pierre dit « Je te défendrai jusqu'à la mort », vous voyez avec quelle promptitude et quelle rudesse Jésus lui dit « Arrière de moi, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, ce sont des pensées d'homme. » Et donc Jésus, de manière surprenante, hein, avec Pierre qui a dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, quelques instants avant hein, », lui dit « Arrière de moi, tes pensées ne sont pas des pensées. » Et donc, l'indécision, la passivité semble être des défauts gentils, ce sont des défauts très préjudiciables. Alors, quelqu'un qui est trop sûr de lui tout le temps, c'est insupportable, mais quelqu'un qui est indécis met son âme en danger.
Et par contre, en tant que maman, maintenant, j'ai trouvé très difficile de devoir expliquer ça à mon enfant en tant que maman. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de lui raconter? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que tu dois lui dire ça? Est-ce que je me suis fait des nœuds au cerveau? Est-ce que j'ai bien fait de lui dire ça? Est-ce que je suis pas bizarre, extrémiste? Est-ce que on se pose des tas de questions en tant que parents quand on essaie de dire des choses à nos enfants? Est-ce qu'on s'y prend bien? Est-ce que c'est le bon âge? Est-ce que c'est la bonne manière? C'est très difficile.
Effectivement.
D'enseigner ces vérités, d'enseigner la lumière, d'apprendre à un enfant à assumer d'être différent, c'est dur. Pour, en tout cas, pour une maman, moi, dans mon cœur, ouais, c'est douloureux. Quoi, de... D'accord.
Alors, deux mamans, c'est moins difficile. S'il y a deux mamans qui réfléchissent ensemble, peut-être c'est moins difficile. Si cet enfant, si dans la cour de l'école, il y a deux enfants qui s'écartent, ce sera moins difficile. S'il est tout seul, c'est plus dur. Apprendre à être seul, par exemple, hein. Je ne vais pas développer, hein, parce que l'heure est passée, mais apprendre à être seul, ça rejoint ce que vous avez dit, même si votre enfant a rejoint d'autres enfants. Mais dans certains cas, apprendre à être seul, mais c'est nécessaire pour un disciple. Dans certains cas, pas par mépris, pas par dédain, pas par sauvagerie, mais Jésus a été seul quand même quelquefois, et c'était nécessaire, hein. Et donc voilà, si tu es seul, c'est pas grave. L'important, c'est que tu sois en paix dans ton cœur. Si un ami a besoin de toi, va l'aider. Mais le métier de parent est très difficile, on est d'accord, hein? Que Dieu nous aide.
J'aimerais juste revenir sur le sujet du numérique, du coup, parce qu'on a beaucoup, on a finalement peut-être pas peu parlé, et on a parlé des interdits, il y a marqué sur les, que ce soit sur les films, sur les jeux vidéo ou autres, des interdits, des moins de 18 ans, moins de 12, etc. Et en fait, on le voit souvent comme un interdit, et moi j'essaye de voir plus de façon positive, dire, c'est pas, oui c'est interdit en dessous, parce que j'estime que la maturité de la personne n'est pas encore assez construite, ou la personne n'est pas assez construite pour accéder à ce genre de truc et pour discerner. Ça veut pas dire que parce qu'il y a marqué moins de 18, qu'au-delà de 18, c'est bon, mais ça veut dire que peut-être qu'à ce moment-là, de sa construction, il est capable de regarder ce film ou de jouer à ce jeu vidéo en discernant que... Faire la part des choses, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui m'atteint pas émotionnellement, etc. Et je pense que le rôle, du coup, de... Je rejoins le truc, du coup, des parents, c'est, dans ce cas-là, d'accompagner, de juger, et d'être là aussi pour accompagner l'enfant dans l'apprentissage, de dire, bah, écoute, ça, c'est pas encore de ton âge, parce que t'es pas encore... J'estime que tu es pas encore assez... construit pour ou solide pour arriver à... Il y a des choses qui te perturberont trop, mais on pourra le faire peut-être plus tard, et quand tu seras en âge de mieux discerner les choses. Mais c'est pas forcément quelque chose qui sera bon.
C'est ça. Je comprends. Alors, je suis d'accord qu'il faut préserver un enfant qui est plus malléable, qui est plus vulnérable, qui est en train de se construire. Ça, je pense que c'est juste. Maintenant... Ma réaction un peu spontanée, c'est de dire, je le dis de manière un peu lapidaire, peut-être un peu provocante, mais soit une chose est bonne, soit elle est mauvaise. Si elle est bonne, elle est bonne pour tout le monde. Si elle est mauvaise, elle est mauvaise pour tout le monde. Qu'on ait 12 ans ou 60 ans. Donc c'est pas pour contredire ce que tu as dit, hein. Je suis d'accord qu'il y a des maturités qui font qu'un enfant qui boit du lait, ben, il mange pas encore de la viande. Voilà. On s'adapte à son âge. Bien sûr que oui. Mais l'idée qu'une chose serait mauvaise jusqu'à 18 ans et bonne ensuite, hein, c'est pas ce que tu as dit, hein. Mais enfin, c'est une idée qui gravite un petit peu partout aujourd'hui, hein. Voilà. On est grand, on peut le faire. Hein. C'est un mensonge. Et c'est un mensonge, il faut pas le croire. Voilà, donc soyons pas trop craintifs, mais ne laissons pas duper non plus par les messages trompeurs. Voilà, veillons sur nous-mêmes et nous pourrons veiller sur les autres si Dieu nous le demande. Voilà, merci beaucoup pour cet échange.